Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
De plus en plus de personnes sont reçues en hospitalisation pour un AVC ou un accident vasculaire cérébral. D'après les spécialistes, l'hypertension artérielle constitue la première cause d'un AVC. Alors, que faire alors pour prévenir une attaque de ce genre? Et qu'est-ce qui explique cette hausse des cas d'AVC à Kinshasa ou à travers le pays? Comment prévenir cela? Docteur Jean-Laurent Takombe, cardiologue à la clinique Ngaliema, est là pour répondre à vos préoccupations. Docteur Takombe, encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, d'abord, docteur, qu'est-ce qu'on entend par accident vasculaire cérébral?
Bon, écoute, vous venez bien de dire, accident vasculaire cérébral, on abrège souvent AVC, tout le monde en parle dans la ville et à travers le pays. En fait, si nous devons prendre la définition retenue par l'Organisation mondiale de la santé, qui dit ceci, c'est un développement rapide et soudain d'un déficit neurologique focal ou global qui persiste plus de 24 heures dont l'origine est vasculaire. Donc, je peux préciser en disant, c'est un trouble neurologique. Ça peut être une paralysie, une hémiplégie, ça peut être un déficit par rapport au langage, donc on perd son langage. Et c'est là, la cause provient d'un problème au niveau vasculaire, au niveau de vaisseau. Donc cela persiste plus de 24 heures et là nous allons parler d'un accident vasculaire cérébral. Donc c'est un problème qui se passe au niveau du cerveau, mais dont l'origine est ailleurs.
Voilà.
L'origine est au niveau vasculaire et qui peut être aussi au niveau cardiaque, cardiovasculaire.
Bien, et quelles sont les causes de cet accident?
Les causes, vous venez bien de préciser en commençant votre émission. Dans le contexte de chez nous, l'hypertension prend la place la plus importante comme cause de AVC. L'hypertension qui est négligée, l'hypertension qui est mal soignée, donc ça peut nous donner comme complication un AVC. Alors, de temps à autre, j'explique ceci. Que les gens ne confondent pas le cœur et l'hypertension. L'hypertension, c'est ce qui se passe dans l'artère, dans les artères. Le cœur, c'est une pompe qui propulse le sang. Et ce sang doit passer à travers le canal ou le tuyau que nous appelons artère. Et c'est au niveau de ces artères que nous avons une pression, une résistance. Et cela nous occasionne des problèmes. Donc, si je donne un exemple, à travers la ville, vous pouvez aller et vous voyez la tuyauterie de la régie des eaux.
Oui.
Et l'eau qui passe dans ce tuyau-là, quand il y a une certaine pression au niveau de ces canaux de passage, ça peut arriver qu'à un endroit, il y ait fuite d'eau. Mais c'est la pression qui se passe dans la tuyauterie, c'est ce qui constitue pour nous une hypertension artérielle. Donc le cœur doit pouvoir pomper de façon considérable avec une force pour faire franchir le sang à travers des artères. Donc si nous ne soignons pas l'hypertension, ça va nous donner des problèmes ou des complications. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aborde des complications au niveau du cerveau, et c'est pour cela que nous parlons d'AVC.
Alors, docteur, on peut comprendre par là qu'un AVC, c'est tout simplement une fuite du sang à quelque part au niveau des artères.
Non, ce n'est pas uniquement une fuite. Je reviens encore par un exemple élémentaire.
Oui.
Vous prenez cette tuyauterie de la régie des eaux. Après des années, cette tuyauterie est rouillée. C'est peut-être cela est causé par les réactifs et tout ce qu'on met dans pour rendre l'eau propre à la consommation. Mais en fin de compte, ces débris de rouille peuvent se détacher parce qu'ils sont accolés au niveau de la lumière intérieure de la tuyauterie. Alors ces débris peuvent progresser et aller boucher des tuyaux qui ont un calibre de moindre importance. Alors, ceux qui sont situés au-delà ne vont pas recevoir de l'eau. Donc, vous voyez qu'à cette situation, il n'y a pas eu fuite, mais il y a eu un obstacle.
Tout à fait.
Et c'est comme ça que vous allez attendre quand vous allez dans des hôpitaux, les médecins vous disent, il a fait un AVC hémorragique. Hémorragique dans le sens que le sang a quitté son lit, se retrouve en dehors. Tandis que l'ischémique, c'est le deuxième cas, le deuxième exemple que je viens de donner, où il y a un bouchon qui est allé quelque part et qui n'a pas permis à ce que l'eau atteigne les régions un peu plus avancées ou pour les régions terminales. Donc, il y a AVC ischémique et il y a AVC hémorragique. Quand il y a fuite, nous parlons d'hémorragie. Quand il y a obstacle, nous parlons d'ischémie. Donc, même cette ischémie, elle peut être causée par d'autres maladies au niveau du cœur, dont notamment les troubles du rythme du cœur. Vous savez qu'un cœur, il doit pomper de façon correcte, de façon régulière. Mais ici, il y a une sorte d'anarchie dans le rythme du cœur. Le cœur bat un peu de façon anormale. Il m'arrive deux fois de dire aux malades un exemple en disant vous êtes sur un terrain de football et vous avez l'arbitre qui est central qui ordonne pour le joueur pour qu'on puisse continuer. Mais il se fait qu'il y a un petit voyou qui est au niveau du poteau, qui a un sifflet et qui donne encore. Donc le cœur ne sait plus, le joueur ne sait plus suivre qui. Est-ce que c'est l'arbitre central ou ce petit fou qui est quelque part dans le poteau? Donc voilà, il y a des maladies cardiaques. Mais nous avons insisté pour dire que dans le contexte de chez nous, c'est l'hypertension qui prend la première place.
Bien, docteur, on va poursuivre tout à l'heure. Le temps d'accueillir Modeste Mwamba, qui nous appelle des Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Modeste, bonjour.
Bonjour, je dis Sacha. Bonjour aux auditeurs de la radio, ainsi qu'à l'invité.
Oui, quelle est votre question?
Oui, d'accord, comparativement au sujet du jour, je voudrais un peu demander à l'invité qu'il puisse nous donner les conséquences les plus néfastes qui sont dus à l'âge. En dehors de ça, il a cité l'artère, il a cité les nerfs et aussi je fais intervenir les veines. Alors, à cela que Christ me donnait une différenciation qui existerait entre ces trois termes que j'ai cités-là. Alors, je voudrais poser une autre question en disant ceci. Est-ce qu'il existe aussi l'AVC lorsque quelqu'un a connu un accident, par exemple, mortel, avec un enfant?
Voilà, la dernière question, Modeste, je n'ai pas bien saisi.
Donc, juste quand quelqu'un est en train de conduire un engin, il a connu un accident. Lorsqu'il y a une artère ou un nerf,
oui,
ou une veine, est-ce qu'on peut aussi tomber dans le cas d'AVC?
Bien, merci. Docteur Jean-Laurent.
Oui, je crois là, monsieur le journaliste, vous allez m'aider parce que la communication n'a pas été très bonne et je n'ai pas saisi la première partie de sa question.
Alors, sa première question est de savoir quelles sont les conséquences néfastes d'un AVC.
Oui, les conséquences néfastes d'un AVC, c'est d'abord la mort, qui est la conséquence la plus redoutable. Donc, vous pouvez faire un AVC si la zone qui a été intéressée, qui a été endommagée, est une zone étendue, vous allez perdre la vie avant même que vous n'atteigniez l'hôpital. Mais il y a d'autres conséquences, dont notamment, ça peut l'état d'handicap dans lesquels nous trouvons beaucoup de nos malades. Quelqu'un qui n'arrive plus à s'alimenter, il n'est plus autonome, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se lever, il ne peut pas aller travailler. C'est aussi une conséquence. Vous savez que c'est un problème de santé, je l'ai toujours répété, c'est un problème de santé. Le monsieur qui m'appelle, je ne sais pas, de Kananga.
Oui, de Kananga.
Oui, voilà, ce monsieur est marié et que son épouse a fait un AVC. Lui-même, il sera obligé de ne pas aller travailler parce qu'il faut aider la femme à prendre bain, parce qu'il faut aider la femme, il faut nourrir sa femme, il faut payer des médicaments et tout ça, ce sont des conséquences énormes. Donc, les conséquences, il y en a de plusieurs ordres, et dont notamment la conséquence redoutable est la mort.
Alors, sa deuxième question, quelle est la différence entre, vous avez parlé des veines et artères, où se trouve la différence entre les deux?
Oui, dans l'organisme, dans le corps humain, vous avez le cœur. Le cœur, lui, chasse ou envoie le sang à travers l'organisme. Et le sang qu'il envoie à travers l'organisme entraîne les artères. Et quand ce sang-là est arrivé en périphérie, au niveau des cellules, au niveau des jambes, au niveau de tout ça, et que les cellules, en les différents endroits, ont récupéré de l'oxygène, et maintenant, il renvoie vers le cœur le sang qui n'est pas riche en oxygène. Ce sang-là n'entraide pas la voie de départ, la voie les artères, mais maintenant, ça va prendre les veines. Donc, le sang quitte le cœur avec les artères, il revient au cœur avec les veines. Voilà, il y a une différence.
Voilà. Et sa dernière question, une personne qui connaît un accident, il y a une veine qui est sectionnée, est-ce qu'on peut parler d'AVC à ce moment-là? C'est ça sa dernière question.
Non, on ne peut pas parler d'AVC parce que je l'ai dit tout à l'heure que c'est un développement rapide et soudain d'un déficit neurologique. Donc vous arrivez, vous perdez votre voix ou je ne sais pas, vous ne savez pas bouger tel bras ou telle jambe. Mais la cause, elle est due à un problème vasculaire. Cause est problème vasculaire. Donc c'est là où je dis. Vous venez de faire un accident, le sang coule, vous n'allez pas vous dire que non, j'ai fait un AVC là-dessus. À moins, je vous dis bien, quelqu'un peut, à la suite d'un accident, parce qu'il a été immobilisé,
oui.
Il nous fabrique des thromboses, des caillots, et que ces caillots, à la longue, ou je ne sais pas, dans les heures qui vont suivre, migrent jusqu'au niveau du cerveau. Là, on peut parler dans la cause, mais si nous devons en tenir compte de la définition telle que recommandée par l'OMS, ça ne répond pas à cette définition.
Voilà. Laurie Lola nous appelle de Kisangani, dans la province orientale. Bonjour, Laurie.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Ok. J'ai en fait deux préoccupations. La première question que je vais poser à mon invité, c'est l'invité me montre au moins comment la migraine et le tabagisme peut aussi entraîner l'AVC. Il essaie d'expliquer les mécanismes parce que je suis aussi étudiant à la faculté de médecine de l'université de Kisangani, troisième année doctorat. La deuxième question. Voilà. On travaille dans une synergie pour l'éducation de la population aux différents problèmes liés à la santé. On a déjà eu à débattre avec les gens sur l'hypertension artérielle, les diabètes, etc. On a eu même des gens qui ont fait des AVC. Mais ces gens-là nous disent toujours que na Coca-Cola à Mungwate. Est-ce que, nécessairement, on peut autoriser aux gens de prendre les sels qu'on vend souvent ici, on dit que c'est les sels sans sodium aux hypertendus, parce que on a déjà essayé de parler, de communiquer avec les gens que l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique qui ne se guérit jamais, mais a aussi des complications particulièrement comme les AVC. Mais ces gens-là reprennent toujours les habitudes, sont de plus en plus gros. Ils oublient qu'avec l'âge, les risques aussi de la maladie augmentent. C'est ça, en fait, que je voulais demander à vous, monsieur le
président. Merci. Merci, Laurie Lola de Kisangani. Ami Sifata qui vous est à Kindu, au Manima, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité et bonjour à tous.
On vous écoute, Ami Si.
Oui, je voudrais demander à notre invité, à ce qui concerne la maladie qui est la question du jour. Est-ce que cette maladie est spécifiquement liée aux personnes âgées? Parce que souvent nous voyons que ce sont les personnes à un âge avancé qui sont souvent victimes. Est-ce que cette maladie aussi peut attaquer les enfants ou soit les jeunes? Et puis la deuxième question était de savoir, lorsque la personne a perdu sa forme physique, c'est-à-dire cette maladie amène à l'handicap, est-ce qu'il y a un moyen pour que cette personne se ressaisisse pour qu'enfin qu'elle trouve son état normal? Voilà, monsieur Jody.
Merci, ami. Si vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-6394.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Comment prévenir un accident vasculaire cérébral? Docteur Takombe, vous avez suivi les questions des auditeurs. Laurent de Kisangani qui veut savoir, est-ce que la migraine peut entraîner un AVC? Peut-on autoriser aux gens qui aux hypertendus de prendre les sels sans sodium?
Oui, je crois que notre ami qui a téléphoné de Kisangani, c'est un étudiant en médecine.
Oui.
Il doit sincèrement connaître la définition réservée à la migraine. Et ça n'entre pas dans le contexte de ce que nous parlons. Migraine et AVC, c'est deux choses différentes. Donc, je ne crois pas que la migraine va nous amener à l'AVC. Donc, il n'a qu'à revoir un peu son cours de médecine. Il y a une définition qui est réservée à la migraine qui n'entre pas dans le cadre d'AVC.
Et peut-être qu'il veut dire que ça peut être un signe d'un AVC.
Non, parce que maintenant, il faut savoir définir une migraine pour qu'il se dise... Il y a des gens qui peuvent se plaindre de maux de tête. De maux de tête, ces maux de tête peuvent peut-être traduire une montée de tension. Cette montée de tension, on doit pouvoir la corriger. Il y a des gens qui viennent à l'hôpital à cause de maux de tête et à la fin, quand on fait un scanner du cerveau, on se retrouve qu'il a fait un AVC. Parce qu'il y a eu certaines hypertensions dans la boîte crânienne. Et on trouve qu'il a fait peut-être une petite hémorragie ou, je ne sais pas, un AVC, une ischémie quelque part, et qui se manifesterait par de maux de tête. Est-ce que ce sont ces maux de tête que le collègue, le jeune collègue va parler de migraine? Je ne crois pas. Donc, je crois que ça, on peut mettre de côté. Mmh. Cette migraine n'est pas égale à AVC. Par rapport, je crois, à l'usage de tabac, je comprends qu'il est étudiant en médecine, il veut savoir de façon intime ce qui se passe. Mmh. Mais vous savez qu'au niveau aussi de la tuyauterie des artères, il y a la couche interne de l'endothélium qui subit des dégâts. Et ces dégâts vont favoriser les macrophages jusqu'à nous faire des débris qui peuvent aller et donner des emboles à distance et nous expliquer l'AVC. Emboles, ce sont des petits cailloux qui peuvent partir de très loin vers le cerveau. Si c'est au niveau cérébral, on va parler d'embolie cérébrale. Donc, ça va venir de très loin. Donc, il faut à tout prix, à notre ami, s'il a des conseils à prodiguer à ses patients, qu'il demande à ses patients de cesser d'arrêter de fumer.
Parce et par rapport au sel,
au niveau des artères, et ces artères-là peuvent, à la fin, nous donner des problèmes au niveau du cerveau.
Et par rapport aux aliments salés, doivent-ils...
Par rapport aux aliments salés, oui, je suis toujours un peu réservé si je dois parler à la population, il y a les gens, les auditeurs qui me suivent. Il est jusqu'à présent déconseillé de prendre le sel. Il est déconseillé pour les patients hypertendus, de prendre les sels, mais pas pour ceux qui sont hypertendus. Mais en général, il faut réduire l'apport exagéré des sels. Maintenant, ce sont des quantités qu'il faudra réserver à certaines catégories de patients. Ce n'est pas à tout le monde que vous allez dire non, vous ne prenez pas le sel de façon stricte, il y a des quantités. Sauf que, dans le contexte de chez nous, vous ne savez pas s'il y a un malade qui est hypertendu à la maison, ou du moins le médecin lui demande, écoute, monsieur, prenez-moi 25 grammes de sodium ou de chlorure de sodium du sel dans les aliments. Je me demande comment la femme à la maison peut essayer de doser ça. Et là, je me réfère à nos collègues de l'Afrique de l'Ouest avec les Français qui ont fait un travail et qui ont exprimé ça par ce qu'on peut donner. Et ils disent ceci aux patients. Vous prenez une cuillerée à café que vous remplissez le sel de table et vous rasez. La quantité de sel qui reste, ça, vous pouvez utiliser ça en 24 heures. Et ils ont encore pris l'exemple de ce que les mamans appellent cube magique et que la personne pouvait prendre un cube magique par 24 heures. Donc le sel, aujourd'hui, C'est suivant les catégories et chaque médecin peut savoir que celui-ci, je peux autoriser. Il y a d'autres qui ont déjà des problèmes au niveau cardiaque pour lesquels nous insistons qu'il ne faut pas prendre le sel. Il est strict parce que le sel retient l'eau dans l'organisme. Quelqu'un qui vous arrive, il a déjà des jambes, des pieds gonflés, il ne sait pas dormir parce qu'il est essoufflé, tout ça. Donc, il est en insuffisance cardiaque. Vous ne pouvez pas lui demander de prendre le sel. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Nous sommes dans des congrès où on nous dit, et je vous assure, l'année passée, il y a eu encore un congrès où il y a eu des débats énormes entre médecins pour l'usage des sels chez les malades. Mais à ce stade, moi, je demanderai aux gens de ne pas abuser. À ceux qui ne doivent pas prendre le sel, qui cessent de prendre le sel.
Bien. Avant de répondre à Missy Fataki de Kindu, nous allons accueillir Madame Esther Oubedi depuis Magui et Mave Kisambika est à Kananga. Madame Esther, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour l'invité, merci pour le sujet, c'est Esther Oubedi depuis Magui.
On vous écoute.
Oui, j'ai connu une amie qui, selon les rapports médicaux, pour des raisons de stress, de soucis, elle a dû faire une hypertension. Après sa prise en charge, entre autres psychologiques, la tension a pu baisser en déjà quelques jours. Alors ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que l'invité peut nous éclaircir si le stress et les soucis peuvent conduire à une hypertension qui est une cause de l'AVC? Et est-ce qu'il peut nous donner les mécanismes de cette hypertension, la causée par le stress et les soucis? Et la deuxième question, comme chez elle, l'hypertension s'est déjà déclarée chez elle pour des raisons de soucis et de stress, est-ce que prochainement, face à ces problèmes de soucis et de stress, ne peut-elle pas encore ces problèmes d'hypertension? Merci.
Merci bien. Mave Kisambika, depuis Kananga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Mave. Demain, j'en ai fait signe que Mavé n'est plus en ligne. Bon, Mavé, veuillez, on va vous rappeler, veuillez nous rappeler, appelez-nous et on va tout de suite vous rappeler pour intervenir dans cette émission. Alors, docteur Takombe, vous avez suivi, Amissi de Kindu veut savoir, est-ce que l'accident vasculaire cérébral est lié à l'âge? Est-ce que les jeunes gens peuvent également être victimes? Et lorsqu'une personne a un handicap suite à un AVC, peut-elle retrouver sa mobilité ou son état initial?
Ok, monsieur Amissi, je ne sais pas, personne âgée, pour toi, c'est à partir de quel âge tu considères que la personne est âgée? Mais je vais revenir en arrière et ça me permet peut-être de prendre deux auditeurs à la fois. En cardiologie, il y a ce que nous appelons les facteurs de risque cardiovasculaire. Et parmi ces facteurs, nous avons réparti en deux groupes. Il y a les facteurs que nous classons comme étant non modifiables et des facteurs que nous classons dans le groupe des facteurs modifiables. Les facteurs non modifiables, là je retiens par exemple l'hérédité. Il y a des familles à hypertension. Vous allez trouver votre grand-père ou je ne sais pas, votre père, tout ça, et dans la descendance, on trouve également ces maladies. Quand on a eu une maman ou grand-mère ou tout ça qui avait de maladies cardiaques, on a quand même la chance que dans la famille, dans les descendances, qu'on puisse encore trouver ces maladies-là. C'est un facteur pour nous en médecine et nous posons toujours la question, papa est vivant, il souffre de quoi, ou maman, tout ça, parce que nous savons qu'il y a ce facteur-là qu'on peut retrouver. Il y a des familles à maladies cardiovasculaires. Il y a l'âge. Les personnes moins âgées font moins de maladies cardiovasculaires par rapport aux personnes âgées. Mais ça, vous pouvez aller chez le médecin, il ne pourra jamais changer. Il y a le sexe. Le sexe féminin est un peu protégé par les maladies vasculaires jusqu'à la ménopause. Il y a un problème hormonal, donc la femme arrive à la ménopause, elle va faire autant de maladies cardiovasculaires que son collègue homme. Donc voilà, ces facteurs-là, ils sont modifiables, vous pouvez voir votre médecin, il ne saura pas changer. Mais il y a par contre d'autres facteurs que nous classons comme étant des facteurs modifiables. Il y a le diabète. Mais ce diabète, si vous en souffrez, vous allez voir votre médecin, vous allez arranger pour qu'on puisse équilibrer ce diabète. Il y a l'hypertension, Vous pouvez faire autant avec votre médecin. Il y a le cholestérol, il y a l'usage du tabac, il y a l'usage abusif de l'alcool, il y a l'obésité, le sédentarisme et en plus, il y a le stress. De plus en plus, nous voyons que les gens qui sont stressés font plus de maladies cardiovasculaires.
C'est d'ailleurs la question.
C'est d'ailleurs la question d'Esther
depuis Magui qui nous parle de son ami qui était stressé, qui a eu beaucoup de soucis et cela a occasionné une hypertension. Et après, ça s'est calmé, ça a chuté. Alors elle se demande lorsqu'elle aura encore des soucis ou lorsqu'elle sera encore stressée, est-ce que l'hypertension peut encore apparaître de nouveau?
Oui, parce que il y a des hypertensions que nous disons des hypertensions réactionnelles. Hein, vous n'êtes pas hypertendu, vous avez un événement malheureux dans la famille ou je ne sais pas au boulot et vous développez comme ça de façon réactionnelle une hypertension. Dès qu'on a réglé le problème, les choses reviennent. Mais ce n'est pas n'importe qui va faire. Il y a toujours des gens qui ont quelques stigmates qui peuvent leur favoriser à faire ça. Donc, le stress dont on parle ici, il ne voyait pas, bon, chacun de nous est stressé. Mais nous sommes à des stress, à des degrés différents. Je vous donne l'exemple. L'autre fois, vous venez de passer un concours et vous attendez la délibération. Vous n'avez pas réussi. Du moins, la période qui précède la proclamation vous met dans un état de stress intense. Mmh. Et cet état de stress intense peut vous amener à avoir des problèmes avec votre cœur. Donc, le stress, c'est un facteur que de plus en plus, depuis 2000, tous les cardiologues, quand ils se retrouvent ensemble, ils reviennent avec ce facteur qui nous amène des problèmes au niveau du cœur. Donc, nous devons peut-être modérer le mauvais stress. Mmh. Autrefois, j'ai donné un exemple d'une secrétaire qui est dans son bureau et à chaque 5-30 minutes, le patron doit tonner, doit tout ça. Donc, chaque fois que cette dame vient au bureau, il sait que non, mon patron, aujourd'hui, c'est tout ça.
Elle est stressée à tout moment.
Peut lui amener à des problèmes cardiaques. Mmh. Donc, il faut chercher. Ce n'est pas n'importe quel stress. Hein. Bon, il y a l'autre stress, il y a le bon stress. Tu vois un serpent, tu as peur et tu dois reculer. Ça, c'est un stress normal.
Oui.
Donc, je crois que nous devons combattre le stress, il nous amène à des problèmes cardiovasculaires, peut-être le phénomène tel que ça se passe, que nous ne pouvons pas au niveau, à la radio vous dire, voilà, les hypothèses probables qui nous amènent à ce stress, ce sont les suivants, mais il y a ce stress que nous avons remarqué.
Alors, docteur, on va accueillir deux auditeurs et puis on va terminer avec leurs questions. Laetitia Bira est à Kindou, Lumière Pario nous appelle de Maragui. Laetitia, bonjour. Laetitia, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, bonjour. J'aimerais savoir, j'aimerais demander à l'invité. Il a dit que l'AVC a comme symptôme la paralysie. J'aimerais savoir quel est le mécanisme qui existe entre les symptômes. Là, parce que la paralysie, on sait que c'est un problème des nerfs. Et l'AVC, c'est un problème des artères. Quel est le mécanisme qui est entre l'AVC et la paralysie? Comment les nerfs sont atteints après la GC? C'est ça ma question.
Merci. Lumière Pario, bonjour.
Allô, bonjour.
Vous êtes à Magui, on vous écoute.
J'aimerais savoir comment une personne doit éviter à trouver cette maladie.
Merci. Docteur Takombe.
Bon, je reviens à notre collègue de Kindou, M. Amissi.
Amissi, oui.
Qui a demandé si on peut recouvrer de son handicap.
Mmh.
Je vais vous dire ceci, M. Amissi. Il n'y a aucun médecin, que ce soit à Kinshasa, qu'il soit en Afrique du Sud ou aujourd'hui en Inde où tout le monde adore partir, qui peut vous rassurer que vous allez, votre handicap va partir. Il n'y a personne. Mais nous savons que si vous prenez le traitement physique, c'est-à-dire la kinésithérapie, il y a une révalidation motrice, vous avez des chances de récupérer.
Mais il y a toujours des séquelles, hein?
Il y a certaines personnes qui peuvent récupérer à 90%, à 98%, ou je ne sais pas, à 50%, ainsi de suite. Mmh. Donc, mais il n'y a aucun médecin qui peut prédire ici, non, vous allez récupérer à 100. Donc, ne vous démenez pas en se disant, je dois aller à tel endroit ou à tel autre parce que j'ai mon handicap. Vous perdez votre temps, mon frère. Faites-les ici, au pays, et vous aurez peut-être la chance de récupérer.
Bien, Laetitia, donc, vous voudrez savoir quel est le lien entre l'AVC et la paralysie?
Bon, si Laetitia a suivi ma définition de départ, hein, je crois qu'il va comprendre. L'AVC, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est le système, hein, il entre dans le système nerveux. Mmh. En fait, le problème d'AVC, c'est un problème multidisciplinaire où nous avons les neurologues, où nous avons les cardiologues, et ainsi, ensemble, nous le prenons en charge. Mais le problème qui se passe, c'est au niveau du cerveau. Tout à travers l'organisme est réglé à partir du cerveau. Si vous voulez bouger votre bras, tout est commandé au niveau du cerveau. Mmh. Alors, si ce cerveau-là, ou la zone, ou le territoire qui s'occupe de ce langage a été endommagé, vous ne saurez plus bouger. Donc, un problème, il est neurologique, mais les conséquences, vous les voyez, hein, la cause, elle est vasculaire. J'ai dit bien, la cause est vasculaire dans la définition, et j'ai bien repris la définition de l'Organisation mondiale de la santé, dont la cause est vasculaire.
Bien,
mais les troubles sont neurologiques.
Bien, docteur Takombe, on va terminer par la question des lumières, qui veut savoir comment éviter un AVC.
Bon, c'est comment éviter un AVC? Et c'est même une meilleure, pour moi j'estime que c'est la meilleure question. Mmh. Il faudra prendre tous les facteurs de risque que nous avons et vous essayer de les corriger. Si vous êtes obèse, certainement quand vous allez chez le médecin, il vous dira non, il faut diminuer le poids, une surcharge pondérale n'est pas bien pour la santé, vous risquez d'atteindre votre AVC. Si vous avez beaucoup de graisse, le cholestérol, tout ça, quand vous allez à des consultations, on vous demande de faire. Mais il y a ce que nous appelons une prévention, que je dirais, primordiale.
Laquelle?
Déjà, au niveau de la famille, vous éduquez les enfants à manger moins gras, à manger moins sucré, à manger tout ça, c'est déjà un problème. Si au niveau de l'État, le gouvernement qui enseigne l'OCC, qui doit contrôler tout ce qui entre, fait un effort pour que les aliments que nous sommes en train de faire entrer dans le pays sont des aliments qui ne présentent pas de danger pour la population, c'est déjà quand même une prévention. Alors, au niveau primaire, quelqu'un qui a déjà une hypertension, quelqu'un qui a déjà des maladies cardiaques, il doit prendre le traitement continuellement, c'est-à-dire quand vous voyez votre médecin, vous avez votre calendrier de visite, il vous prescrit des médicaments, il faut les prendre. Les médicaments en cardiologie, ce sont des médicaments à prendre toute la vie, ce n'est pas un problème, non, j'ai une cure de un mois, non, ce n'est pas la malaria ou la fièvre typhoïde. Donc le traitement, il est continu, que les gens ne cessent, quand vous arrivez dans un dispensaire, vous prenez la tension, on vous prélève la tension, on vous dit la tension est bonne, arrête le médicament. Ne faites pas ça, c'est très dangereux. Continuez à prendre vos médicaments, cessez de fumer, tous ces éléments que nous avons évités, si vous les évitez, c'est déjà une très bonne chose. Alors, pour les gens qui ont déjà un AVC, ils ont déjà fait un AVC, ces gens-là, moi je leur demande de ne pas se décourager, de continuer à prendre les médicaments, parce que quand on fait un AVC, on peut en faire un deuxième ou un troisième, et ça sera des dégâts énormes. Donc, s'il y a une kinésithérapie, ne croyez pas que aujourd'hui, on vous masse un mois et puis le problème est résolu. Il faut que la kinésithérapie soit continuée. Elle peut même être toute la vie parce que vous n'aurez pas... Dès que vous cessez à faire votre kinésithérapie, vous aurez quand même des malaises. Donc, il faut continuer votre kinésithérapie.
Alors, docteur Takombe, la pratique du sport est aussi un bon moyen de prévention?
Oui. Quand j'ai parlé de sédentarisme, d'obésité, le sport, il est important.
Bien, docteur...
N'importe qui ne peut faire le sport, surtout si vous avez des facteurs de risque, il faut au préalable voir le médecin et peut-être de préférence le médecin cardiologue qui vous dira qu'il n'y a pas d'éléments qui vous prédispose à faire quelque chose, un arrêt brutal ou quelque chose comme ça est beaucoup plus grave.
Docteur Jean-Laurent Takombe, cardiologue à la clinique Gallimard, je vous remercie.
Merci beaucoup.